Eh bien, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Soubade à l'occasion de la publication de son roman qui s'appelle Miss Sweetie. C'est son quatrième roman aux éditions Anne Carrière. Vous êtes une fidèle de cet éditeur. Hein. Malgré votre désir de discrétion, Valérie, on entend quand même beaucoup parler de vous, l'air de rien. Ça bruisse à Bordeaux. Là. Et pour ceux rares qui ne vous connaîtraient pas, il y en a sûrement qui ne la connaissent pas, je vais ajouter quelques précisions la concernant. Alors, vous avez fait des études de journalisme, ensuite vous avez fait Sciences Po, et puis actuellement vous avez rejoint l'Alliance française où vous enseignez. Mais auparavant, vous avez un peu bourlingué, et donc notamment vous avez effectué un séjour en Angleterre et qui vous a manifestement beaucoup marqué, et ça vous a donné le déclic de l'écriture, ce qui nous vaut aujourd'hui ce roman au parfum d'outre-Manche, hein, quand même. Donc, alors je tiens à ajouter pour ceux qui ne la connaîtraient pas que sous des dehors charmants. Vous avez devant vous une personne qui est redoutable. Elle est redoutable et il faut terriblement s'en méfier parce que Valérie Soubade est un assassin, parce qu'elle tue avec les mots. Donc, attention. Pour dévoiler votre roman, j'en dirai quelques grandes lignes, sans tout dire, bien sûr. Et déjà, toute la perfidie de son auteur se trouve dans le titre, le choix du titre, parce que Miss Sweetie, ça sonne doux et sucré comme un bonbon. Et en fait, c'est pas ça du tout. Samantha, qui est journaliste, diplômée de psychologie, répond au courrier du cœur pour une revue et elle mène une vie assez retirée chez sa grand-mère et sa grand-tante. Et elle répond avec beaucoup de conscience professionnelle au courrier du cœur et beaucoup de méthodes aussi. Jusqu'au jour où une lettre avec des menaces de mort arrive et alors là, tout bascule. Et là, ça devient terrible. Alors, chez vous, l'intrigue est une espèce de basse continue, je trouve, qui ponctue d'inquiétude la douce insouciance du récit. Ça paraît comme ça, bien léger, et puis tout d'un coup, on sent pom, 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 l'inquiétude qui monte, qui gagne. Voilà, et tout ça, c'est servi par une écriture que vous avez quand même fluide, vive, et puissamment évocatrice de l'atmosphère britannique. On y reviendra. Voilà, mais malgré votre manière là, très habile de mener l'intrigue, je trouve qu'il ne faut pas prendre les romans de Valérie simplement au premier degré, comme ça, comme un petit truc marrant qu'on va lire, c'est un bon passe-temps, parce qu'il se cache des tas de choses derrière. Et je pense que ces ouvrages méritent plusieurs niveaux de lecture. Alors, je le qualifierais de comédie grinçante. Grinçante car les hommes n'y tiennent pas le bon rôle, les femmes ne sont pas à la fête non plus, seules semblent épargnées les deux désopilantes octogénaires qui abritent leurs parentes, elles ont un petit arrière-goût d'arsenic et vieille dentelle. Alors il y a beaucoup à dire sur la psychologie de vos personnages. Et à leur sujet, j'userai d'un audacieux oxymore et je dirais qu'ils sont empêtrés dans un changement immuable, en ce sens que seuls les événements extérieurs ont une prise sur leur destinée. Et vous l'exprimez vous-même parce que vous dites le plus infime changement dans sa vie ordonnée l'angoissait. Or, vos personnages se trouvent confrontés à l'amour, à la guerre, à la mort. J'ai trouvé qu'on faisait beaucoup, beaucoup l'amour dans vos romans, presque aussi souvent que l'on boit du sherry. Hein. Ça chauffe. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue-là ?
Oui, d'abord je vous remercie pour la présentation. Je pense effectivement, j'ai rencontré une fois dans un salon Bernard Werber, que tout le monde connaît, et avec lequel j'ai eu une longue conversation sur les personnages, parce que pour un auteur, le personnage est central. Et il m'a dit, moi, mes romans, je prends des personnages, je les mets dans une boîte à chaussures et je secoue. Pour voir ce qui va se passer. Et quelque part, je trouve qu'il a raison. C'est un petit peu ce que j'essaie de faire. D'abord, mes personnages, par exemple Samantha, est tout sauf une héroïne. J'aime beaucoup prendre des personnages ordinaires, parce que je trouve que les héros ne sont pas intéressants. Et j'aime beaucoup les placer dans des situations un peu extraordinaires. Dans Happy Birthday, c'était une vieille dame qui tout à coup décidait de tuer sa fille. Dans Marche arrière, c'était un homme un peu maladroit qui faisait une marche arrière justement un peu invalidante pour sa femme, je dirais. Et là, c'est une jeune femme donc, qui est très ordinaire, complètement, comme vous dites, engluée dans son quotidien, complètement névrosée. Et on sent que si il ne se passe pas quelque chose dans sa vie à l'extérieur, elle va rester par confort, par habitude. Et puis parce qu'on est tous un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on est tous pris dans notre quotidien, dans nos petites névroses, et puis finalement c'est assez confortable. Donc il va falloir qu'il y ait un événement, et c'est pour ça que chaque fois je prends des événements un petit peu déroutants, un peu hors de l'ordinaire. Voilà.
Déroutant, c'est-à-dire que la trajectoire du personnage en est affectée. Déroutant, c'est un très bon mot.
Voilà,
ça.
Ce qui m'intéresse, c'est finalement de me dire qu'est-ce que cette personne tout à fait ordinaire, finalement, va arriver à faire face à une nouvelle situation inédite. Alors ça, c'est le privilège du romancier, parce que finalement, nous, il ne nous arrive pas grand-chose. Je ne sais pas combien de personnes ici ont reçu des menaces de mort, mais personnellement,
c'est pas encore.
Mais, en fait, j'avais envie de la placer dans une position extrême et de voir ce que ça allait changer dans sa vie. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Une espèce de pitchenette pour pousser mon personnage à aller au-delà d'elle-même, au-delà de son confort, de son quotidien.
Oui. Et alors justement, cette Samantha, là, qui est introvertie, qui est phobique, dès qu'elle croise un homme, elle devient complètement écarlate, c'est épouvantable. Donc elle est quand même en situation d'échec vis-à-vis des hommes à 36 ans, elle se cherche, ça ne marche pas très bien. Et donc les obsessions, en fait, ont le rôle principal dans votre roman. Mais par rapport justement à votre héroïne, qui n'en est pas une, est-ce qu'on peut considérer ces phobies, là, de Samantha comme un déni de sa solitude? Est-ce qu'elle exorcise des douleurs anciennes ou est-ce qu'elle elle se protège de son malaise existentiel derrière ses phobies là?
Alors, je pense qu'il y a un peu tout ça, mais ce que j'aime bien quand j'écris, c'est revenir très souvent, d'ailleurs je le fais quasi systématiquement, hein. Je reviens dans le passé, j'ai toujours une double lecture, c'est-à-dire le présent et puis beaucoup de flashbacks, pour employer un terme peu élégant. Et parce que je pense que ce qui est intéressant dans les personnages que l'on crée, c'est les failles. C'est-à-dire qu'il faut aller creuser. C'est-à-dire qu'au départ, je propose un personnage avec ses phobies, comme pour Samantha, sa phobie des fleurs, sa phobie des bus, sa phobie... Et puis, je vais remonter dans le temps pour essayer d'expliquer pour le pourquoi du comment. Et quelque part, c'est pour revenir dans la vie réelle, c'est ce que je trouve le plus intéressant, finalement, quand on rencontre des personnes. Il y a l'apparence, il y a ce que l'on nous présente, et finalement, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a derrière, et ce qu'il y a... entraîner toutes ces phobies ou toutes ces névroses. Donc, ça a un petit côté psychanalysant, je ne sais pas. Mais ensuite, je pense aussi que concernant Samantha, c'est une inadaptée sociale. C'est-à-dire qu'elle a essayé de suivre une voie normale avec des études, elle a essayé d'avoir des petits amis, elle a essayé de mener une vie normale. Mais finalement, elle ne rentre pas dans le moule, elle ne rentre pas dans le cadre d'une vie normale et normée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que malgré tous ses efforts pour avoir une vie normale, elle se trouve hors de la vie normale, elle se trouve solitaire. Et sa solitude, je pense, est confortable. Parce que, enfin, moi, c'est comme ça que je la vois, c'est-à-dire qu'elle a baissé les bras. Moi, je la vois comme une jeune femme qui a baissé les bras. Au moment où s'ouvre le récit, eh bien voilà, elle a constaté qu'elle était phobique, qu'elle ne pouvait pas sortir, qu'elle avait énormément de problèmes de relations humaines, et notamment avec les hommes, Et elle arrive à un âge, 35 ans, où la plupart de ses amis sont mariés, divorcés, ont des emplois un peu plus reluisants que le sien. Et puis elle, c'est une ratée, une aimable ratée. Vous savez, très souvent, dans les groupes d'amis, il y a le bout en train, il y a la volontariste, celle qui dirige tout, l'autoritariste. Et puis, il y a cette espèce de petit canard. J'ai une tendresse particulière pour les petits canards. Il y a une espèce de petit canard qui est là, posé, ne sait pas trop quelle est sa place. Et Samantha, c'est ça. C'est cette petite chose toute perdue. Et j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage. Et elle est dans une en plus une double contrainte, parce que elle a la contrainte de vivre avec ses handicaps, ses phobies, mais elle a aussi la contrainte de faire semblant, parce qu'on est dans une société où on n'a pas le droit d'être différent, où on n'a pas le droit d'être hors de la norme. Donc elle essaie vaillamment comme elle peut, elle va une fois par mois au pub avec ses copines pour faire comme si, elle fait des essais de maquillage, mais bon, elle n'y arrive pas, elle est à côté de la plaque, et finalement... elle va finalement trouver un peu un réconfort. Elle a baissé les bras. Alors, elle a à la fois baissé les bras et puis elle se réconforte de cette solitude, de ses habitudes, de ses phobies. C'est comme si sa vie était arrêtée. À 35 ans, quand le roman s'ouvre, sa vie est arrêtée. Elle est à l'arrêt. Elle a baissé les bras.
Oui, effectivement. Alors ça, c'est un personnage féminin. Vous avez essentiellement des personnages féminins. C'est ce que j'avais remarqué. Je trouvais que peu d'hommes trouvaient grâce à vos yeux. Il a fallu que vous écriviez marche arrière, et je crois avec beaucoup de difficultés pour vous mettre dans la peau d'un monsieur. Mais là, dans Miss Sweetie, ça va. Alors vraiment, les hommes, c'est des Kleenex, hein, des produits de consommation. Ça va, ça vient. On les jette. Est-ce que c'est ça dans la vraie vie? Est-ce que...
Grande question.
Pourquoi sont-ils malmenés à ce point, les hommes, chez vous?
Parce que ce sont des personnages secondaires. Et là, je parle en temps... Attention, je ne parle pas comme pour la vraie vie, mais je parle au niveau du roman. Je crois qu'un romancier, de toute façon, il est un peu obsédé. Hein. On a des domaines de prédilection. Moi, il se trouve que j'aime beaucoup... les femmes, parce que je trouve qu'elles ont des vies plurielles, elles ont beaucoup de responsabilités, en règle générale, dans la vraie vie. Et puis, ce sont des femmes souvent très intéressantes. J'ai choisi un peu mon camp, finalement. C'est-à-dire que je suis dans le camp des femmes, mais pas du tout par féminisme, juste par intérêt pour le roman. Parce que j'ai l'impression qu'une femme m'ouvre davantage de palettes. Parce que j'aime aussi la communauté des femmes, qui sont toujours les groupes d'amis, les groupes familiaux, sont très, très proches, très souvent. Alors, avec des problèmes, mais c'est très soudé. Et je, peut-être aussi parce que je suis une femme, donc je me reconnais davantage. Et c'est vrai, je vous disais, quand je fais des salons, parce que bon, au bout du quatrième roman, j'ai fait quelques salons derrière moi. C'est très intéressant la façon dont les hommes et les femmes réagissent en tant qu'auteurs. Enfin, ça, c'est juste une observation personnelle. Les femmes sont... J'ai fait des salons essentiellement avec des femmes. C'est hilarant parce que les femmes romancières sont assez loufoques en général et ne se prennent pas au sérieux. C'est-à-dire que les romans, l'écriture, c'est une part de leur vie. Ce n'est pas entièrement leur vie. Quand je rencontre des romanciers, bon, il y a des doux rêveurs, mais il y a quand même ce côté « est-ce que j'ai plus signé d'ouvrage que toi ?» qu'on n'a pas avec les femmes. Ce qui n'empêche pas que les femmes peuvent être terribles entre elles. Donc, il y a toujours ce double côté.
Alors,
c'est l'ambiguïté qui m'intéresse. Par exemple, dans le Miss Sweetie... j'ai mis en scène, parce que je les adore, mes deux vieilles octogénaires. Elles sont terribles entre elles, parce que finalement, comme vous parliez de double lecture, alors en surface, on va beaucoup rire des tiraillements entre les deux sœurs, mais il y a un vrai malaise. Il y a eu des choses affreuses qui se sont passées entre ces deux femmes. Et malgré tout, elles sont toujours ensemble. Donc, j'ai l'impression que les femmes sont capables du pire comme du meilleur. Et c'est pour ça que ça m'intéresse en tant que romancière de les mettre en scène. Concernant mettre en scène un homme, Ce que j'ai délibérément fait dans Marche arrière, c'était un peu un pari, tout comme pour Happy Birthday. Je me suis mise dans la peau d'une vieille dame, ce que je ne suis pas encore. Mais sincèrement, je trouve que c'est ça la liberté suprême d'écrire. C'est-à-dire que tout à coup, vous décidez d'être quelqu'un d'autre. Et je ne connais pas quelque chose de plus jouissif que de pouvoir passer dans la peau d'un personnage. Alors autant que ce soit un personnage complètement en dehors de vous-même, ça permet de maintenir la distance. Et je trouve que c'est une aventure assez intéressante. Je me rappelle quand j'écrivais Happy Birthday, grand-mère, je me suis retrouvée, j'étais en train d'écrire, et j'étais tellement concentrée sur mon personnage de vieille dame, que je commençais à avoir les doigts qui se raidissaient comme si j'avais de l'arthrite. C'était physique. Alors, je n'ai pas eu d'autres conséquences secondaires quand je me suis prise pour un homme. Ça s'est bien passé. Mais c'était intéressant. Alors, j'ai pas j'aime bien ce côté aussi dans le roman. Ça vous permet aussi... Bon, alors, c'est peut-être aussi mon côté ancienne journaliste qui ressort... Il y a un petit côté ethnologique, hein, c'est-à-dire qu'on va aller observer. Donc, par exemple, pour Marche arrière, donc, j'ai observé tous les hommes de mon entourage pendant, à leur insu, bien sûr, pendant un an, pour prendre des petites choses. Et évidemment, le côté grinçant est reparu, et je n'ai pris évidemment que le moins reluisant, parce que sinon, ce n'était pas drôle. Mais je crois que j'ai beaucoup de tendresse pour les hommes, même si dans le livre, ce n'est pas forcément... Mais réellement, dans Miss Sweety, comme dans pas mal de livres, enfin pas mal, comme si j'en avais écrit 10, mais dans les autres, c'est vraiment un parti pris, parce que ce sont des personnages secondaires qui vont servir l'intrigue.
D'accord.
Voilà.
Oui, oui. On vous souhaite d'avoir de la tendresse pour les hommes, forcément. Et donc, effectivement, en matière de distance avec les personnages, ça me ramène au problème de l'altérité, justement, chez vous. Et j'ai remarqué que vos personnages sont éminemment seuls, égocentriques, que leurs amitiés sont souvent factices, que les relations hommes-femmes se résume souvent à une nuit un peu câline et quelquefois sans lendemain, et que dans les autres romans antérieurs, les relations parents-enfants sont souvent houleuses. Alors qu'en est-il de l'autre, de votre approche de l'autre? Ça laisse un peu perplexe, parce que ça paraît difficile, hein?
Oui, mais c'est difficile. Je crois que c'est éminemment difficile. Je crois qu'on passe sa vie à essayer de comprendre l'autre. Et d'autant plus qu'on est obligé de vivre avec l'autre. Si on avait la possibilité de choisir tout le monde, mais on est obligé de choisir. Si mes romans se passent souvent dans des espèces de lieux clos, comme la famille, comme je reviens toujours aux maisons avec un lieu clos, et c'est peut-être pour ça, on y reviendra peut-être, que j'aime beaucoup tout ce qui est vieille maison, parce que il n'y a pas de porte très ouverte. On est obligé de se supporter. Et finalement, bon, Sartre, tout le monde le sait, hein, l'enfer, c'est les autres. Je trouve que c'est intéressant aussi de noter que chaque fois que, dès qu'on est trois, excusez-moi, mais c'est le bazar. Donc là, justement, j'ai pris pour Miss Sweety, j'ai pris trois femmes, et je voulais justement voir, on est toujours équivoque, en fait. On est toujours entre l'amour et la haine, on est toujours entre je le supporte, je le déteste, et je crois que c'est un grand problème, finalement. On est dans une société moderne où on communique très vite, où les publicités, les films, beaucoup de romans montrent que tout va bien, que la norme, c'est la famille, ce que j'appelle la famille ricorée, le couple, et va évidemment chez Ikea le samedi et le dimanche, tout va bien, ils ont déjà monté le meuble, ça n'arrive jamais dans la réalité parce qu'on n'a jamais le bon tournevis. Et en fait... Finalement, ma façon à moi de m'insurger toute seule dans mon coin, en solitaire, avec mon livre, ben justement, c'est de montrer justement cette brutalité qu'il peut y avoir dans les rapports humains. Et j'aime bien jouer, ça aussi c'est un parti pris dans l'écriture, vous parliez d'écriture fluide. C'est une écriture très travaillée, en fait. Hein. On ne l'obtient pas comme ça. Il faut beaucoup, beaucoup travailler pour avoir des phrases courtes et une légèreté. Et justement, moi, j'aime bien jouer l'altérité aussi. Là, c'est le contraste entre la fluidité, la légèreté des propos Et puis la noirceur, finalement, des situations que j'évoque ou que je vais suggérer. Voilà. Je ne veux pas. Je trouve qu'il faut avoir une certaine élégance quand on écrit. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est, comme dit la reine d'Angleterre, hein, never complain, never explain. On revient en Angleterre. Et finalement, ce qui est important, c'est justement de faire passer des choses qui sont peut-être pas très gaies, des matières à réfléchir, sous un univers sweetie.
Alors justement, revenons-y en Angleterre, là, parce que vous en parlez avec une gourmandise vraiment là, qui nous donne envie d'y filer tout droit. Hein. Donc, cette atmosphère est rythmée par le thé impérial pour la petite, et puis le feu factice dans la cheminée, les napperons, les rondes serviettes, le plancher qui grince, et les rideaux qu'on écarte quand même un petit peu. Cette espèce de maison londonienne, là, c'est un nid de femmes. C'est un nid de femmes qui est un peu détaché du temps et de l'espace. Et dans cet utérus, seule Samantha nous raccroche un petit peu à l'extérieur. Et quand même, à l'extérieur, en toile de fond, ce sont quand même les attentats du 11 septembre. Et ça n'est pas rien. Donc, qu'a été pour vous ce séjour en Angleterre? Pourquoi cela vous a-t-il donné le goût d'écrire? Est-ce que vous êtes nostalgique de ce pays? Et est-ce que les scones sont votre madeleine?
Ah oui, là, tout à fait. Je suis en pleine madeleine avec les scones. En fait, je crois que j'ai commencé à écrire sur le tard. Et je dis que j'ai eu cette chance de commencer à écrire tard, puisque j'ai commencé à écrire à 33 ans, ce qui n'est pas très tôt. Je trouve que c'est une chance parce qu'on a plus de recul, parce que sa vie est faite, parce que écrire et être publié, ça peut être très violent aussi, parce que tout à coup on est sollicité, il ne faut pas se perdre de vue, il faut bien garder les choses essentielles en tête. Et justement, j'avais 33 ans lorsque je suis allée en Angleterre, et je me suis trouvée pour la première fois sans travail, avec mes enfants à la maison. J'étais la seule Française dans un petit village anglais, avec des Anglais que je ne comprenais pas linguistiquement, sociologiquement aussi, parce que parfois c'était un peu bizarre. J'ai souvenir du premier Anglais que j'ai croisé, on était en janvier, il était en t-shirt. Donc je me suis dit, c'est un pays un peu bizarre. Et puis donc c'est là où j'ai eu enfin le temps de me poser et de me dire, je vais essayer d'écrire. Donc c'est vrai que j'ai une petite tendresse particulière pour l'Angleterre parce que ça a été la genèse. C'est là où j'ai commencé à écrire. Pour le genre de livre que j'essaie d'écrire, j'ai besoin d'univers clos. Je ne pourrais absolument pas faire un livre qui se passe en Floride avec la plage, de grandes baies vitrées et une piscine. Pour moi, ce n'est pas possible. Il me faut un lieu feutré, confiné. Donc l'Angleterre avec sa pluie me convient tout à fait. Et puis j'aime bien aussi cette notion, je suis assez nostalgique, j'aime beaucoup, je crois que je me suis trompée un peu d'époque, le 21e siècle, je pense que j'ai raté quelques siècles, et j'aime beaucoup tout ce qui est atmosphère, l'odeur du bois ciré, le craquement des planchers, les napperons. Et effectivement, j'ai retrouvé beaucoup ça en Angleterre, parce qu'en Angleterre, on vit beaucoup à l'intérieur, on vit dans les pubs, mais on vit beaucoup à l'intérieur. Et justement, j'ai besoin toujours de ces atmosphères où ça va être un lieu clos, presque neutre, mais bienveillant. Parce que c'est important, un lieu qui soit bienveillant, parce qu'il va se passer des choses tellement horribles qu'il faut qu'il y ait quelque chose de doux tout autour. Et toujours le contraste entre plus les napperons sont propres, plus le linge de famille est sale.
C'est une très, très, très jolie formule et qui nous amène justement à parler de votre humour, parce que vous n'êtes pas dénué d'humour, loin s'en faut. Et donc justement, ça, j'ai trouvé une phrase de Kierkegaard qui entérine le deuxième angle de lecture dont je parlais au début. Et il dit, c'est justement parce que l'humour recèle toujours une douleur cachée qu'il comporte une sympathie dont l'ironie est dépourvue. J'ai trouvé que c'était très, très joli et que ça vous allait très, très bien. Et alors, dans vos précédents romans, l'humour était extrêmement présent à toutes les pages, presque, et vous aviez le qualificatif assez assassin. Là, j'ai trouvé que dans Miss Sweetie, il fallait quand même soulever un peu l'angle du tapis, parce que c'est plus feutré, là aussi. Et donc, ça affleure un petit peu entre les lignes, un peu comme l'eau sur les hauts fonds, là, un peu. Et alors, vous avez fait votre l'humour anglais avec son délicieux décalage. Finalement, l'humour anglais, c'est le décalage. Et alors, j'aimerais vous citer, par exemple, j'ai noté que la page 109, si le truc colle toujours, voilà. Alors, vous dites, par exemple, par rapport à Julianne, il avait l'incontestable avantage d'être un amant plus expérimenté, ce qui semblait normal pour un homme marié et père de 3 enfants en bas âge. Donc, je trouve que c'est très, très mignon. Et puis, il y a une des deux vieilles dames, là, qui a eu un malaise, qui est à l'hôpital. Donc, sa sœur s'inquiète, bien sûr. Et donc, elle demande à la première infirmière qu'elle trouve. Elle dit, elle ne va pas mourir. C'est ma sœur et je n'ai plus qu'elle. Ma mère est morte et mon fiancé a disparu dans les tranchées. Mais Dieu merci, mon nouveau petit ami n'a qu'un peu de cholestérol. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'appelle ça un délicieux décalage. Et donc, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu différent des formes d'humour que vous aviez maniées jusque-là.
Oui, alors, le problème, c'est que quand on démarre avec Happy Birthday Grand-mère, où il y a pas mal d'humour, c'est qu'en France, on aime beaucoup les étiquettes. Donc, vous avez devant vous un auteur humoristique. C'est très ennuyeux parce que parfois, ce n'est pas seulement ça. Alors, pour moi, l'humour est extrêmement important. D'ailleurs, on peut citer Boris Vian, hein, « L'humour et la politesse du désespoir ». Moi, j'aime beaucoup cette phrase. J'aime pas mal celle que vous avez trouvée aussi, il va falloir que je la note. Et en fait, c'est très compliqué de faire rire, mais d'un autre côté, c'est très important d'avoir cette légèreté. Parce que justement, plus on va être léger, plus on va pouvoir parler de choses graves. Personnellement, je déteste les auteurs, et je ne les citerai pas parce que je ne les lis pas, qui s'apitoient, qui s'étalent. Je pense qu'il faut être acéré, il faut être grinçant pour faire passer les choses. Et c'est vraiment un travail, c'est vraiment un travail d'écriture, de trouver, Feydeau n'est pas loin parfois, et c'est un travail d'équilibriste. Parce que l'humour, c'est très difficile à faire. Je pense déjà qu'il faut avoir un petit tempérament humoristique, mais il faut faire attention parce que la caricature n'est jamais loin. Le ridicule n'est jamais loin. Et on est toujours dans un équilibre instable quand on écrit sur ce mode-là. Alors, concernant Miss Sweetie, effectivement, je pense que ce livre est moins drôle au premier degré. Et c'est un peu délibéré parce que j'ai pas envie... J'ai pas envie de me contenter de ça. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai commencé dans le registre drôle, burlesque et léger. Bien, mais mon écriture, c'est pas que ça. Alors, je sais bien que je vais pas aller très très loin. Je ne serai jamais dans la langueur, le pathos, etc. Mais là, j'avais envie de mettre un petit peu en sourdine l'humour. C'était un peu voulu. Et puis, parce que c'est très difficile de faire de l'humour, il faut vraiment avoir un mécanisme comme une horlogerie pour faire de l'humour. Et c'est peut-être... construire une intrigue est compliqué pour moi. Et faire de l'humour est compliqué. Donc, en fait, si vous avez trouvé des passages drôles, j'en suis contente.
Mais c'est ce que j'ai lu, ça.
mais c'est pas. C'est vrai que c'est moins l'essentiel. Et il y a aussi, de ma part, une volonté d'en sortir un petit peu de ce côté.
C'est pour ça que je dis qu'il faut soulever le tapis, là.
Voilà, oui. Voilà. Puis les poussières sont intéressantes, voilà, souvent, oui.
Voilà, exactement. Ouais. Alors, Miss Sweetie, là, finalement, ça, il n'y paraît pas, mais c'est un livre d'images. C'est un livre d'images parce que l'atmosphère est décrite minutieusement. Alors on voit tout. C'est très, très visuel, presque cinématographique. Et ça, la construction, tout en incise, parce que la construction, elle est terrible dessous, et elle est facilement adaptable. Donc, est-ce que ça vous ferait vraiment plaisir de voir un jour un de vos livres porté à l'écran ?
Alors, ça a failli. En fait, c'est des Mes éditions sont des histoires de ratés. Le premier livre, Happy Birthday, a failli être adapté en pièce de théâtre avec Dominique Lavanant, mais ça ne s'est pas fait. Et puis le deuxième, Marche arrière, j'ai eu une option d'un an d'un metteur en scène pour... Les Petites Sœurs, pardon. J'ai eu une option d'un an au niveau du cinéma, mais ça ne s'est pas fait faute de financement, parce que ce n'est pas facile de trouver le financement. C'était un metteur en scène, enfin un cinéaste peu connu. Et c'est vrai que oui, effectivement, en filigrane, j'aimerais beaucoup que ça... Parce que je crois que ce qui doit être extraordinaire, c'est pas tellement de voir son nom écrit d'après le roman d'eux, c'est vous avez des images dans la tête, vous passez, moi mes suites, je l'ai écrit en un an et demi à peu près, donc pendant un an et demi, j'ai eu une double vie, c'est-à-dire que j'avais ma vie normale et puis j'avais ma vie avec mes personnages. Et donc je sais vraiment comment ils sont, je les vois, ils sont aussi réels que vous. Et d'ailleurs, il m'est même arrivé, pour un de mes romans, de rencontrer mon héroïne dans la rue. J'ai suivi mon héroïne, parce que tout à coup, elle correspondait à ce que moi, j'avais imaginé. Et je pense que le cinéma, oui, ça me plairait beaucoup, si ça se fait une fois, ça serait vraiment pour voir ce que l'imaginaire d'un autre va donner. Qui va-t-il choisir ? Dans quel lieu va-t-il les installer ? Et tout à coup, tout ce qu'on a construit soi-même à l'intérieur, le voir dans les yeux d'un autre, je pense que ça doit être une expérience à la fois intéressante et peut-être un peu traumatisante.
Frustrante, peut-être un peu.
J'irai pas jusque-là, mais peut-être, oui. Peut-être ça pourrait être frustrant.
Si c'est pas tout à fait ce que vous aviez imaginé.
Oui,
vous.
Alors après, je pense aussi que j'associe beaucoup le mot roman à liberté. J'ai la liberté de créer mes personnages. Je pense aussi que chaque lecteur a la liberté de se l'approprier, c'est-à-dire de l'imaginer différemment mien. Après, je pense que non, je pense que ça pourrait être intéressant de voir le contraste entre mon univers et l'univers d'un cinéaste, par exemple. Ça m'intéresserait beaucoup, oui.
Ouais. Oui. Votre écriture aussi s'inscrit un petit peu dans la lignée des thrillers anglais, là. Donc, vous avez une prédilection pour les Ruth Rendell, les Elizabeth George, voire même l'Américain Kennedy Douglas. Douglas Kennedy, pardon. Qu'est-ce qui vous fascine chez ces auteurs-là ?
Leur construction. Parce qu'un livre, c'est avant tout une construction. Vous pouvez avoir des personnages formidables, des lieux formidables, un humour formidable. Si vous n'avez pas d'intrigue, ça ne marchera pas. Et moi, quand j'essaie d'écrire quelque chose, je ne commence jamais un livre tant que je n'ai pas la dernière phrase de mon livre. Et parce que c'est l'aboutissement. C'est-à-dire, je suis pas. Il y a des auteurs qui vont vous dire. Il y a des auteurs qui fonctionnent comme ça. Ils ont une idée et puis ils partent. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Moi, je suis incapable de fonctionner comme ça. Je suis une horloge. C'est-à-dire que quand je vais me mettre à écrire un manuscrit, je sais exactement. Je connais exactement tous mes chapitres. Et ce qui m'amuse le plus, c'est faire une sorte d'arborescence et de se dire, voilà, j'arrive ici, j'ai 3 ou 4 possibilités. Quelle va être la possibilité qui va le mieux servir l'histoire ? Parce que finalement, au bout du compte, mon contrat, il va être rempli si vous arrivez à la dernière page sans avoir vu le temps passer. Pour moi, ça vaut, c'est plus que le style, c'est plus que les personnages, c'est ça qui est le plus important. Et c'est intellectuellement très enrichissant. C'est... essayer d'arriver à porter le lecteur jusqu'au bout. Et pour moi, c'est un contrat moral. C'est-à-dire que si on me dit « j'ai pas pu lâcher ton livre », là, j'ai réussi. Si on me dit, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit une fois, j'étais très vexée, on m'a dit « ah, à un moment donné, l'intrigue d'un de mes livres était un peu moins... » se relâcher. Pour moi, j'ai pas fait mon travail. Voilà. Et après, c'est vraiment très intéressant de scénariser. C'est-à-dire que je scénarise avant d'écrire.
D'accord. Donc, vous avez le script.
Oui.
Ah,
très précis.
Et après,
voilà, vous chapitre par chapitre, séquence par séquence. C'est ce que font, par exemple, beaucoup d'auteurs anglaises, effectivement, parce qu'il m'est arrivé de lire des articles sur elles, voir des livres qu'elles avaient écrits sur la façon dont elles écrivaient. Et oui, il y a ce côté un peu anglo-saxon, hein, c'est-à-dire on part pas. Moi, je n'ai pas une âme. D'auteur avec une imagination débridée. Tout ça, c'est quelque chose de finalement extrêmement travaillé. Je dois avoir la première phrase, parce que mes premières phrases sont très importantes. Je dois avoir la deuxième phrase, la dernière phrase, et après, eh bien, je vais construire mon intrigue. Mmh. Mais je ne pars jamais à l'aventure. Par contre, c'est une horloge, mais une horloge qui se détraque. Par exemple, dans le livre Margaret, donc la sœur, au départ, ne devait avoir qu'un tout petit rôle. La sœur, donc un petit peu toquée, ne devait avoir qu'un petit rôle. Et je l'ai vu grandir petit à petit au fil des chapitres. Et là, c'est l'inconscient qui parle. C'est ça qui est quand même assez fabuleux quand on écrit, c'est qu'on a beau avoir, comme moi, balisé tous les chapitres, on sait où on va, et bien tout à coup, vous avez un personnage qui décide de vivre sa vie. Alors là, c'est la catastrophe, parce que vous aviez votre balisage, et là, vous avez Margaret qui décide de s'incruster dans l'histoire. Donc, il faut remanier tout en gardant l'objectif. Mm-hmm. C'est un mécanisme de précision, mais avec des surprises, comme ça, des personnages. Et ça m'est arrivé, j'ai écrit 7 manuscrits, donc certains n'ont pas été publiés. Il y a toujours dans un manuscrit un personnage qui se réveille, qui s'impose à vous, et vous ne savez pas pourquoi. Je suis incapable de dire pourquoi Margaret a pris cette place démesurée dans ce livre. Au départ, c'était Samantha. Et Margaret a poussé un peu Samantha pour s'y mettre. Bon, elle s'est enveloppée, donc elle a réussi.
Voilà. Manifestement, c'est un rapport de force terrible.
Oui, il y a eu un rapport de force entre ces trois femmes.
Alors, j'ai remarqué que vous aimiez jouer avec les mots. Et on a l'impression un petit peu du chat et de la souris, là, vous prenez le mot, et puis, top, top, et vous lui faites dire des choses que ce mot ne voulait pas dire avant. Vous l'insérez d'une manière différente, et on sent que vous avez une passion pour le mot.
Ben déjà, de par mon travail, je suis professeure de français, donc ça, c'est quelque chose... Oui, j'ai une passion. Mon meilleur ami est le dictionnaire, je dois avouer, il s'appelle Robert. Et vraiment, ça m'arrive très souvent d'ouvrir Robert pour voir un nouveau mot, parce que j'ai envie d'avoir un nouveau mot par jour. Et je malaxe aussi les mots. Par exemple, calipige, j'adore. J'ai des mots privilégiés que je vais me répéter souvent, donc... C'est parce que c'est tellement fort un mot. Un mot peut, si vous voyez votre
peut
vie...
Peut tuer, j'ai dit au début.
Voilà. ça peut tuer un mot. Oui. Et moi, je suis toujours en admiration devant les mots, effectivement. Et notamment le fait de travailler auprès des étrangers, pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que justement, on leur communique une force du mot. Et on travaille, on joue sur le mot. Mmh. Et c'est intéressant. Et concernant l'écriture, quand j'écris, le premier G, ça va être vraiment un brouillon. C'est-à-dire que, par exemple, Miss Sweetie, avant de l'envoyer à mon éditrice, eh bien, je l'ai retravaillé 3 ou 4 fois. Et là, c'est un travail d'orfèvre. On va chercher la précision. On va enlever la lourdeur. Là, je me considère comme une artisane. Et je suis en train, un petit travail d'orfèvre, je suis en train d'essayer de trouver le mot le plus juste, celui qui va justement aller à l'essentiel. Parce que je n'ai pas le temps d'avoir des lourdeurs. Et puis, c'est comme des staccato un petit peu. Il faut être dynamique, il ne faut pas perdre le lecteur. Et les mots sont très importants, oui, effectivement. Le travail sur les mots est pour moi quelque chose de très important.
Alors, il y a ça, et puis le fait que vous aimez bien les faire rebondir, et puis les insérer dans un contexte dans lequel on ne les attend pas, finalement.
Oui, ben ça, c'est le côté un peu décalé, en fait, un peu loufoque, parce que les mots, c'est jouissif, finalement. C'est intéressant de jouer avec eux. Mmh. Ça fait partie, justement, de l'exercice et du plaisir de l'écriture.
Oui, sûrement. Oui. Bien sûr. Alors, dans Miss Sweetie, là, vous traquez le conformisme britannique. Mais dans vos précédents romans, vous attaquiez avec beaucoup de mordant au côté convenu de la bourgeoisie de province. Alors, est-ce qu'on doit y voir l'expression d'une absolue fantaisie chez vous, ou un règlement de compte, ou comment doit-on interpréter ça, ce côté mordant contre ces conventions d'outre-Manche françaises? Oui.
En fait, je pense pas qu'il y ait de règlement de compte. Je pense que je parle de ce que je connais, parce que j'ai évolué en Angleterre. J'ai eu le temps d'observer les Anglais qui ont un côté extrêmement policé. Et puis, le jour, finalement, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein, ils ont un côté extrêmement policé le jour. Et puis, le soir, on les voit dans les pubs totalement différents. Et j'aime bien ce côté extrême. Concernant la bourgeoisie de province, bon, c'est plutôt la petite bourgeoisie de province, mais je la connais, je la trouve, j'ai beaucoup de tendresse là aussi. Il n'y a pas d'acrimonie quand je me moque. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un milieu. Alors à la fois la bourgeoisie de province, comme on dit, et puis peut-être ce que j'ai rapporté d'Angleterre. C'est toujours le double langage, le double jeu. C'est-à-dire qu'il y a l'extérieur, l'intérieur. Et c'est toujours ça qui m'intéresse. J'aurais pas pu prendre un autre milieu parce que justement, j'avais besoin de jouer sur les deux tableaux. C'est toujours ça qui m'intéresse. Aller chercher ce qu'il y a derrière la fenêtre, aller chercher ce qu'il y a derrière les rideaux, c'est ça qui m'intéresse. Donc, dans un milieu, je pense qu'un milieu plus... Je réfléchis en même temps. Non, je ne crois pas que je serais à l'aise dans un autre milieu. Pas d'abord parce que je le connais bien, et puis ensuite parce que justement, il m'apporte ce double tranchant. Okay. C'est ça qui est important. Toujours pouvoir aller, comme pour les personnages, je vais chercher la faille, eh bien pour le milieu, je vais aller chercher l'arrière, l'envers du décor. Parce que finalement, c'est l'envers, c'est les coulisses qui sont les plus intéressantes.
C'est plus drôle.
Toujours.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Et... Alors, Samantha, je reviens à Samantha, qui est une excellente professionnelle. Elle agit avec beaucoup de méthodes, petit A, petit B, petit C, on va lui répondre ceci, cela. Elle a des grands principes, et donc elle répond avec beaucoup de conscience. Mais on s'aperçoit que ça fait quand même écho à ses propres problèmes, c'est-à-dire qu'elle essaie de résoudre les autres, mais finalement... ça arrange un peu les siens, ou elle essaie de résoudre les siens au travers des réponses des autres. Et par exemple, vous dites « elle avait beau prendre de la distance, cette catégorie de lectrice la renvoyait un peu trop à sa propre existence ». Et donc, alors est-ce qu'il y a un effet miroir là ? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de personnel chez vous par rapport à vos personnages ?
Mais forcément, je pense que de toute façon, on écrit avec son cœur, avec son être, avec son âme, donc avec ce qu'on peut. On a forcément à être un petit peu dans chaque livre. Alors, ce qui est très amusant, c'est lorsque j'ai des connaissances qui lisent les livres, elles me disent « Ah oui, mais là, c'est pas toi » ou « Là, j'ai reconnu, là ». Et en fait, non, parce que là, je pense qu'on est dans... on est dans l'inconscient, on est dans une partie inconsciente de soi-même. C'est-à-dire que je crois que mes personnages sont à la fois moi-même, mais aussi ce que les autres m'apportent. Je me nourris de beaucoup de gens autour de moi, puisque je pense que quand on écrit, avant tout, on est une éponge. C'est-à-dire qu'on va prendre pour soi, sur soi, beaucoup d'émotions extérieures, beaucoup de situations extérieures. Je crois qu'on ne peut pas écrire si on n'est pas sensible, d'une ultra-sensibilité. Je crois que c'est vraiment l'essence même de quelqu'un qui va écrire. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça va être la nourriture qui va me permettre de créer les personnages. Alors après, c'est un jeu, c'est toujours dans l'ordre du jeu, dans les deux sens du terme, hein, J-E-U et J-E. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va s'amuser à brouiller les pistes. Est-ce qu'il y a un peu de Samantha, un petit peu de Valérie ? Je ne vous le dirai pas. Je le sais, mais je ne suis pas sûre de le savoir tout à fait. Mmh. Et puis finalement, ce n'est pas le plus intéressant. L'important aussi, c'est que quelque part, le lecteur ou la lectrice se dise « Ah ben, je la comprends ». Parce que finalement, en tant qu'auteur, je vais transmettre des émotions. C'est-à-dire les émotions que moi, j'aurais assimilées, je vais les retranscrire via le biais de mes personnages à des lecteurs qui en feront ce qu'ils voudront, mais ce sont de toute façon des émotions qui ont été assimilées, ingérées en moi et qui après vont ressortir. Donc la part du jeu, la part des autres, je ne peux pas répondre à cette question. Elle est compliquée, cette... Et puis en plus, je ne pense pas aussi, ça dépend, parce qu'il y a, par exemple, depuis ces quelques années, il y a beaucoup d'autofiction dans la littérature française.
Oui, c'est très mode.
Voilà, c'est très mode. Alors moi, je suis complètement hors mode, parce que franchement, l'autofiction, ça me fait bâiller. Et je ne trouve pas ça très intéressant. Je pense qu'on a déjà sa vie. Justement, moi, j'écris pour m'inventer d'autres vies. Donc, je ne vois pas pourquoi je parlerais de moi, si ce n'est inconsciemment. Dans mon grand bonheur, justement, c'est de partir avec d'autres personnages, de m'inventer d'autres vies, d'autres voyages.
Et l'évasion. Ça, c'est... L'évasion.
L'évasion, voilà. Ouais. Moi, j'écris pour m'évader, ça, c'est clair.
Bien sûr. Ouais. Au travers de ce qu'on peut lire, là, on sent quand même chez vous une très, très grande curiosité intellectuelle. Vous l'avez confirmé au travers de vos réponses. Mais donc, qu'en est-il de vos goûts pour la lecture? Parce que vous avez cité dans les livres Bulgakov, vous citez Paul Auster, vous citez Novalis. Est-ce que vous avez des préférences pour la poésie? Quels sont vos rapports avec l'art? Vous parlez du concerto de violon de Bach, mais dans un autre livre, on est dans la musique. Donc, quels sont vos rapports de curiosité intellectuelle avec cet environnement-là?
Je suis une dilettante reconnue. Je suis comme un oiseau qui picore. C'est-à-dire que... Alors déjà, j'ai une très mauvaise mémoire, donc ça peut m'arriver de relire deux fois le même ouvrage parce que je ne me souvenais plus que je l'avais lu. Ça, c'est le côté un peu étourdi, un peu rêveuse. Après, je fonctionne au coup de cœur. Je n'ai aucune a priori. Et je dois dire que je n'ai pas fait d'études de littérature. Et j'en suis très contente, parce que j'ai l'impression d'avoir une grande liberté d'esprit pour... je n'ai aucun code, je n'ai aucune norme, je vais fonctionner au coup de cœur. Je peux lire des romans policiers et puis tout à coup me plonger dans une œuvre plus sérieuse. Je peux ne pas aller au musée pendant des mois, et puis tout à coup, je vais aller au musée. Voilà. Je suis vraiment une dilettante, parce que je ne suis pas sûre d'avoir vraiment besoin de tout ça pour me nourrir. Parce que mon écriture, elle est faite des gens. Alors après, je vais... Alors c'est ça qui est aussi l'attrait de l'écriture, c'est que pour les besoins du livre, je vais aller me renseigner. Alors là, je vais sur Internet, et là, je vais découvrir des choses que je ne connaissais pas, voilà. Et donc, ça va faire partie de mon enrichissement. Mais ça va être plutôt parce que mes personnages ont besoin de ça, voilà. Donc, je prends des références pour moi-même, mais sincèrement, je ne me qualifierais pas de quelqu'un de très cultivé. Je suis une dilettante par rapport à ça.
C'est des curiosités intellectuelles.
Oui, oui. Alors, la curiosité est là, mais elle ne vaut que... pour mes personnages. Je reviens toujours à mes romans, parce que c'est quand même là où j'ai vraiment cette curiosité et où je vais vouloir construire un univers. Et là, je vais aller picorer dans l'art, dans la littérature, dans la musique, pour mes personnages. Comme si pour moi, ce n'était pas si important que ça, mais pour mes personnages, ça l'était. Je dois faire un transfert, docteur.
On va étudier ça de près. On prendra rendez-vous. Alors, si vous n'attendez pas d'être publié pour vivre, d'après ce que j'ai compris, mais peut-être vous vivez quand même pour être publié. Quelle est l'ambiguïté qui découle de ce dilemme-là?
Oui, c'est un grand dilemme qui m'occupe certains soirs. Effectivement, est-ce qu'on est honnête en disant qu'on écrit juste pour le plaisir d'écrire ou parce qu'on a envie d'être publié? Alors, moi, je crois que de toute façon, il faut être honnête. On écrit pour être publié, ça c'est clair. Dans mon cas, j'ai la chance d'être dans une maison d'édition chez Anne Carrière sur le long terme. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'on est dans... pour fréquenter un petit peu le milieu, entre guillemets, avoir quelques échos, on est quand même... dans un monde de l'écrivain ou du romancier Kleenex. Moi, il y a 12 ans, quand j'ai publié mon premier roman, j'ai été lauréate de plusieurs prix du premier roman. C'était, entre guillemets, de la chair fraîche littéraire. D'accord ? Et puis, l'année suivante, il va y avoir d'autres nouveaux romans. Et vous, vous n'êtes plus si intéressant, si inédit, si nouveau. Mmh. Et bien, ça n'existe pas beaucoup des éditeurs qui disent « je mise sur toi, sur la durée ». C'est exactement ce que me dit Anne Carrière en me disant « prends le temps ». Et je trouve que c'est une chance extraordinaire d'avoir un éditeur comme ça. Alors, c'est vrai que quand j'écris, ben, j'écris déjà pour me faire plaisir. Et puis, comme vous l'aviez dit, c'est... parce que je m'évade en écrivant. Il y en a qui vont au cinéma, d'autres qui font du piano. Ben moi, j'écris. C'est ma façon à moi de m'évader, de m'aérer. Après, il y a le jeu. C'est la roulette russe. Et ça, c'est je suis une joueuse. Parce qu'un livre, ça représente des heures de travail, de réécriture. Et finalement, on va lancer. On ne sait pas. Moi, quasiment un sur deux n'a pas été publié. Donc, il faut dire, je repars à l'assaut. Et puis, il va falloir passer les barrières, c'est-à-dire l'éditeur d'abord, est-ce qu'il va accepter? Et puis, une fois que le livre est publié, est-ce que les journalistes, parce qu'hélas, on est obligé de passer par la presse, vont en parler? Et puis, une fois que la presse va peut-être un petit peu en parler, est-ce que les lecteurs vont suivre ou pas? C'est plein de barrières. Mais franchement, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le côté artisan, c'est-à-dire je vais me concocter mes personnages, mes histoires et mon univers. Et après, j'ai l'impression que j'ai rempli mon contrat et ça m'intéresse beaucoup moins. Là, par exemple, Miss Sweetie est en train de faire son petit chemin dans la presse. Je vais commencer à faire des salons, mais je suis déjà dans un autre manuscrit. Je suis partie ailleurs.
Alors, est-ce qu'on peut un tout petit peu savoir? Là, elle s'arc-boute, on ne saura rien.
Non, rien. Là, bon. J'avoue que je n'arrive pas à parler de ce que j'écris, mais à personne. Par exemple, Anne Carrière, mon éditrice, elle me dit « Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» J'ai un mal fou à lui en parler. Il faut juste que je donne le manuscrit. Je peux pas faire autrement. Je ne sais pas parler de ce que j'écris actuellement. J'y arrive pas.
Vous mettez combien de temps pour écrire un livre? Ça peut varier, bien sûr.
Voilà. Alors avant, je disais le temps d'une grossesse. Oui. Parce que c'est vrai que parfois 9 mois. Là, je trouve que je perds le rythme, peut-être parce que je suis plus occupée. J'écris moins souvent. Je dirais un an et demi. Mais c'est un compagnonnage quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment une vie parallèle. C'est-à-dire que mon personnage et mes personnages sont en moi pendant tout ce temps de gestation. Finalement, le temps de l'écriture est très rapide pour moi. Mais c'est le temps de la maturation qui est très long. Oui. C'est-à-dire que je vais vivre avec l'histoire, avec les personnages, dans ma tête, ou peut-être de temps en temps sur un bloc-notes, pendant des mois. Et puis à un moment, à un jour, ça y est, c'est parti. Et là, ça va être très rapide.
D'accord.
Voilà la façon dont je travaille.
Donc, vous gérez votre construction. Alors, vous avez eu une période avant l'écriture et ensuite après l'écriture. Alors, cet effet de bascule entre... Vous avez eu deux vies, là. Est-ce que vous pensez que vous avez perdu du temps de ne pas écrire avant? Est-ce que vous mettez les bouchées doubles maintenant? Ou vous êtes satisfaite des deux en disant, bon, il y avait un temps avant et un temps après, cette scission-là?
Oui, mais en fait, je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que je suis comme les chats, j'ai plusieurs vies. Et ça, c'est vraiment important. Et en fait... La période d'avant l'écriture, finalement, était encore une période où ça mûrit petit à petit, puisque à cette époque-là, j'étais journaliste. Oui. Et donc, finalement, la période au cours de laquelle j'ai été journaliste m'a permis de m'approprier les mots, d'en faire des simples outils qui vont me permettre de faire une histoire. Donc, finalement, je me dis que ces années-là où je n'ai pas écrit... où j'étais très occupée à écrire des articles ou à mettre en page les articles des autres, m'a servi pour me construire au niveau de l'écriture. Notamment, je pense avoir une écriture très rapide parce que j'ai été journaliste avant. Pour un journaliste, un mot, c'est un outil. Une page, ça se compte en signes. On n'a pas ce romantisme effréné de la page blanche, etc. Donc, je n'ai aucun a priori. Pour moi, c'est juste une technique, c'est juste un mot. Au service de l'histoire, au service des personnages, au service de l'atmosphère. Après, non, je n'ai pas du tout de regrets. Je trouve qu'au contraire, moi, je m'imagine très bien, mon souhait, c'est d'être une vieille dame indigne qui fera les salons avec sa canne et qui continuera à écrire. Voilà, j'essaie de m'inscrire dans la durée et je pense qu'il ne faut pas forcer. C'est petit à petit. Je crois que mon écriture mûrit, que mes intrigues mûrissent. Je me considère vraiment comme une artisane et un artisan. Son premier meuble ne va pas être très réussi. Par contre, son 20e meuble, il va être plus abouti. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'essaie de m'inscrire dans mon travail de romancière.
D'accord. Eh bien, Egwete, continuez de nous bousculer, de nous étonner et de nous inquiéter.
Surtout.
Surtout. Voilà. Merci beaucoup, Valérie Sobad.
Je voulais vous remercier. Pour moi, c'est la première fois que j'interviens chez Mola dans une conférence. Merci de votre écoute. Merci de votre attention.
Merci à tous.